Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Le conseiller dans le gouvernement de l'Église et étudiant un projet de réforme de la curie romaine, c'est la mission que confiait un mois après son élection le pape François à une commission de 8 cardinaux. Nous en parlons avec l'un d'entre eux dans quelques instants. La guerre en Syrie ne connaît aucun répit et la question d'armer les rebelles se pose de plus en plus à la communauté internationale. Nous avons recueilli l'avis du patriarche de l'Église syriaque catholique d'Antioche. Prêtres agressés par des groupes armés, églises brûlées, coptes soupçonnés de prosélytisme et expulsés du territoire, la communauté chrétienne souffre en Libye. Pourquoi ces persécutions ? Réponse dans ce magazine. Et puis nous parlerons du mariage pour tous en France qui suscite de très vives tensions. La loi sera adoptée ce mardi et les opposants maintiennent leur mobilisation contre la légalisation des unions et l'adoption par des couples homosexuels. Bienvenue dans ce magazine. Un mois, jour pour jour après son élection, le pape François annonçait la constitution d'un groupe de 8 cardinaux de tous les continents pour le conseiller dans le gouvernement de l'Église et étudier un projet de réforme de la curie romaine. Une décision attendue et souhaitée par de nombreux cardinaux. Parmi ceux-ci, le cardinal George Pell, archevêque de Sydney, qui s'est entretenu ce lundi avec le pape, car si la première réunion collective de la commission a été fixée du 1er au 3 octobre prochain, d'ici là, des entretiens de travail sont prévus avec le pape durant ces 5 mois. Autre cardinal à faire partie de cette commission de 8 cardinaux, dont 7 sont évêques d'église locale, le cardinal Reinhard Marx, le responsable de la rédaction allemande de Radio Vatican, le père Bernd Hagenkorkt, a rencontré l'archevêque de Munich et Freising pour discuter de cette commission. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Pas de surprise pour le cardinal Marx face à la création de cette commission. Il confirme que la nécessité d'une réforme de la curie avait émergé durant le préconclave, ainsi que l'idée de conseillers provenant des églises locales. Mais il se dit frappé par la rapidité de la décision et par le fait d'avoir été choisi. Ne sachant pas si sa fonction de président de la commission des épiscopats de la communauté européenne y est pour quelque chose, il constate, comme tout le monde, qu'au-delà de l'intention du pape de faire figurer les divers continents, son désir était de s'entourer d'évêques de grands diocèses avec une solide expérience d'administration. Représenter la multiplicité des églises locales et des continents, mais également rassembler des évêques qui, grâce à leur responsabilité pastorale, ont peut-être déjà une certaine expérience. Amérique latine, Amérique centrale, Amérique du Nord, Afrique, Australie, Europe, Asie et Vatican. L'aspect symbolique est évident, souligne alors le père Bernd. Serait-ce donc que l'Église universelle se fait conseillère du pape, demande-t-il ? Pour le cardinal Marx, pas de doute. Sa sensation, une fois le pape élu, fut celle-ci. Nous retournons dans nos diocèses et nous le laissons seul. Pas complètement seul, car il est entouré de nombreux collaborateurs, mais nous, les cardinaux qui l'avons élu, nous devrions être prêts à l'aider. Je ne pensais pas que cela deviendrait réalité, alors que c'est logique. Lorsque l'on a cette charge du cardinalat et que l'on participe à un conclave, il faut être prêt à aider le pape, s'il le désire, en devenir le conseiller, s'il le désire aussi. Voyant comme un honneur le fait d'avoir été choisi, voyant comme un signe positif la portée universelle de la commission, le cardinal Marx reconnaît que les 8 cardinaux qui la composent ne se connaissent pas tous avec la même intensité. Autrement dit, souligne-t-il, nous ne formons pas un cercle qui se rencontre et a des contacts depuis longtemps. Mais le conclave nous a rapprochés d'une manière nouvelle. Sur le travail qui attend les cardinaux durant les mois qui les séparent de début octobre, le cardinal Marx avoue que le projet en ce moment n'est pas encore défini, mais qu'une chose est pourtant claire. Le pape a fait savoir à toute l'Église qu'il désirait une réforme de la curie et qu'il désirait le conseil de ses 8 cardinaux et qu'en cela, l'Église universelle soit concernée. Et dans ce contexte, les relations entre la curie et les églises locales sont à envisager sous un jour nouveau.
Zentrale in Rom und den Ortskirchen
Le cardinal Marx y voit un signe fort dès avant que l'on connaisse quelles seront les prochaines décisions. Et quand le père Bernd, en guise de conclusion, demande au cardinal Marx ses impressions sur le nouveau pape, pour lui, pas de doute, c'est bien Dieu qui nous a donné ce pape. Surpris par tout ce que nous avions vécu durant le conclave, nous y avons vu aussitôt un signal de l'Esprit Saint. Et après ces quelques semaines seulement de pontificat, nous en avons la confirmation. Jusque dans les paroisses, l'optimisme est grand, tout comme les attentes, parfois même un peu excessives, car conclut le cardinal Marx, un pape ne peut d'un coup réinventer l'Église.
Même dans les communautés chrétiennes, il y a des arrivistes, a relevé le pape François au cours de la messe qu'il célébrait à la maison Sainte-Marthe dans la matinée de ce lundi, en présence notamment d'employés du bureau de presse du Saint-Siège et de leur directeur, le père Federico Lombardi. Le pontife a affirmé que les arrivistes volent la gloire de Jésus. Il les a comparés aux voleurs et aux brigands de l'Évangile. Le pape François s'est opposé à une religion des affaires. Parfois, a-t-il encore souligné, nous avons la tentation d'être nos propres patrons et non pas les humbles fils et serviteurs du Seigneur. Et puis, ce 23 avril, l'Église célèbre la fête de Saint Georges Martyr, dont le pape François porte le nom. Le 23 avril sera donc dorénavant jour férié au Vatican et ce mardi aura lieu une célébration eucharistique en la chapelle Pauline avec les cardinaux résidant à Rome. La guerre ne connaît aucun répit en Syrie. Selon l'ONU, elle a déjà fait plus de 70 000 morts. Le conflit syrien et la situation des chrétiens d'Orient préoccupent l'Église et le Saint-Siège. Ces dossiers délicats et douloureux ont été évoqués la semaine dernière au Vatican. Le pape François a en effet reçu en audience privée le patriarche de l'Église syriaque catholique d'Antioche. Sa béatitude Ignace Youssef III Younan venait d'effectuer une visite en France. Un déplacement au cours duquel il a eu des entretiens avec des membres du gouvernement de François Hollande. Face à eux, il a souligné la complexité de la crise syrienne et appelé les puissances occidentales à ne pas alimenter les violences. Sa béatitude Ignace Youssef III Younan est interrogée par Hélène Destombes.
Nous avons essayé de leur expliquer que la situation en Syrie est très grave. Ça fait 25 mois que la crise dure. C'est toujours le peuple syrien, surtout les innocents, qui ont payé le prix. Et parmi eux, tout particulièrement les chrétiens. Il faut être plus réaliste en analysant ou bien en traitant la question de la Syrie. Ce n'est pas comme ils ont parlé que c'est un printemps arabe, démocratisation. La situation est beaucoup plus complexe et il faut aider toutes les parties à trouver le moyen de se réconcilier et d'œuvrer pour une paix juste avec les réformes nécessaires du régime. Mais d'imposer au régime par la force de se reformer, ce n'est pas réaliste et ça va s'aggraver de plus en plus.
Certains vous reprochent d'avoir une position trop politique, de soutenir le régime de Bachar al-Assad. Quelle est votre réponse?
Nous ne sommes pas avec ni le régime, ni le président, ni le parti. Nous sommes avec le peuple syrien. C'est-à-dire, nous prêchons la paix. On ne peut pas importer le système démocratique européen et l'imposer dans des pays qui ne savent pas séparer la religion de la vie politique. C'est pour cela que nous disons, nous ne sommes pas ni avec un régime, nous ne voulons pas faire de la politique, mais nous avons vraiment à cœur la situation de nos communautés chrétiennes qui nous demandent d'intervenir afin qu'une solution pacifique soit trouvée pour résoudre le problème de la Syrie.
Quelle pourrait être cette solution? Comment sortir de cette crise meurtrière?
Tout d'abord, nous voulons que les gouvernements européens, surtout de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis, ne s'interfèrent pas dans cette question-là en incitant à la violence. Parce que la communauté qui est au pouvoir en Syrie n'a plus confiance en la majorité qui veut changer le régime par la violence. Donc, ce n'est pas un régime militaire ou bien de deux clans de famille qu'on veut faire tomber. C'est un régime déjà depuis des années. Il y a un parti, il y a une communauté, il y a beaucoup de partisans. Si c'était vraiment une révolution populaire, ça aurait dû depuis longtemps être réalisé et ça aurait pu changer le régime. Malheureusement, ce qu'ils nous ont promis, ça, ce n'était pas la vérité. Nous voudrions, nous prions le peuple français et tous les peuples de bonne volonté à sortir de cette indifférence, à dire leurs politiciens, voyez-vous, il faut changer et il faut réformer un régime, mais ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par l'effusion de sang et par la discrimination entre peuples, communautés et religions qu'on doit y arriver. Il faut trouver des moyens plus pacifique pour cela.
Autre pays secoué par la violence, subi notamment par les chrétiens, l'Irak. Les chrétiens et les autres Irakiens ne peuvent vivre dans des enclaves désignées sur base ethnique et religieuse et la militarisation du printemps arabe représente une perte pour tous. C'est une prise de position claire de Mgr Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens. Il réagissait aux rumeurs récurrentes selon lesquelles serait à l'étude l'institution d'une zone autonome spéciale réservée aux chrétiens irakiens, réaffirmant que ni les chrétiens ni les membres d'autres groupes confessionnels ou ethniques ne peuvent vivre dans un ghetto. Les propositions de division du territoire irakien sur base sectaire expriment, selon le patriarche, une approche désormais obsolète des problèmes qui affligent le Moyen-Orient, où la seule perspective possible est celle consistant à affirmer le principe de citoyenneté égale pour tous, qu'ils soient musulmans, chrétiens, arabes, kurdes ou turkmènes. La dérive du printemps arabe que craint Mgr Sacco en Irak se vérifie malheureusement en Libye. Depuis plusieurs semaines, les chrétiens, grecs, orthodoxes, coptes venus d'Égypte et catholiques sont la cible de violences et de vexations. Prêtres agressés par des groupes armés, églises brûlées, coptes soupçonnés de prosélytisme et expulsés du territoire, ces récentes attaques portent un coup à la paix qui présidait autrefois aux relations de cette communauté chrétienne pluriséculaire avec les autres Libyens. Pourquoi ces persécutions? Quel avenir pour les chrétiens de Libye? Écoutez l'analyse de Christine Chaillot, écrivain, spécialiste des anciennes communautés chrétiennes du Moyen-Orient, auxquelles elle a consacré plusieurs ouvrages. Ses propos sont recueillis par Manuela Afidji.
On a vu par exemple le 3 mars qu'un tireur a raté un prêtre catholique devant la cathédrale à Tripoli. Les églises grecques ont été attaquées, en particulier à Tripoli, à plusieurs reprises. On est rentré dans les lieux, on a dévalisé les églises. Et puis alors les coptes ont eu aussi des attaques à plusieurs reprises, avec en plus le problème qu'on a arrêté une centaine de coptes fin janvier 2013.
Est-ce qu'on sait qui est à l'origine de ces attaques?
Sans doute des islamistes, parce que on l'a bien vu au niveau des élections. En Libye, les islamistes étaient assez nombreux à se présenter pour les élections politiques, ce qui signifie évidemment que les mentalités changent au niveau de la population, comme c'est le cas en Égypte et ailleurs, et que malheureusement, voilà, on a maintenant des groupes islamistes violents qui sont présents en Libye.
À l'instar de l'Irak ou de la Syrie, est-ce qu'on peut s'attendre, dans ce cas précis, à un exode massif des chrétiens de Libye?
Ils sont déjà partis. Les Grecs, par exemple, qui sont partis, ne reviendront pas. Donc c'est vraiment une micro-communauté chrétienne qui existe aujourd'hui en Libye. Et effectivement, on peut craindre que l'avenir soit le même que celui qu'on voit pour les chrétiens en Irak, qui évidemment sont beaucoup plus nombreux en Irak. La situation est encore plus complexe parce que la communauté chrétienne dans sa globalité est très très petite, donc c'est très très facile de pouvoir l'éliminer. Et que justement le fait, par exemple, lorsqu'on donne ce prétexte que des coptes orthodoxes ont fait du prosélytisme, et quelle raison est-ce qu'on en donne? C'est parce qu'ils avaient des images pieuses chez eux, une Bible, et qu'ils ont l'habitude de tatouer la croix sur leur poignet, eh bien ce ne sont pas pour nous des actes de prosélytisme, c'est une manière quotidienne de vivre sa foi. Mais donc on a arrêté une centaine de coptes, on a torturé certains de ces chrétiens qui avaient été arrêtés, un de ces coptes est décédé des suites de ces violences, et donc on peut imaginer que pour certains, on peut analyser le fait que c'est une manière, si vous voulez, en intimidant les chrétiens, c'est une manière de faire partir les derniers chrétiens de Libye.
On l'évoque depuis des années, on le dit, on ne le répétera jamais assez, les chrétiens d'Orient sont en danger. Quel futur entrevoyez-vous pour ces communautés?
On a évoqué rapidement la Libye, l'Égypte, l'Irak. On pourrait parler des problèmes des chrétiens en Syrie et il y a aussi des problèmes pour les chrétiens qui vivent en Turquie. Donc on voit qu'il faudrait pouvoir maintenir ou créer des équilibres politiques pour que tous ces chrétiens continuent à vivre libres et à se sentir chez eux au Moyen-Orient, qui est la terre de leurs ancêtres. Malheureusement, justement, les tendances politiques actuelles ne vont pas dans ce sens et il est difficile de voir un avenir qui soit facile pour les chrétiens dans cette zone.
Direction la France, où les débats houleux sur le projet de loi du mariage pour tous sont désormais clos à l'Assemblée nationale. Avant le vote, prévu ce mardi 23 avril, la tension va croissante. Les nombreux militants du collectif La Manif pour tous ne désarment pas, multipliant rassemblements improvisés et coups d'éclat, plus que jamais déterminés à se faire entendre. Ils dénoncent le mépris du gouvernement, les provocations policières et les amalgames systématiques dont ils font l'objet. Autant de méthodes qui confinent, selon eux, un véritable déni de démocratie. Le discours se radicalise de part et d'autre. La violence du débat sur les réseaux sociaux, dans la rue et même dans l'hémicycle de l'Assemblée surprend et interpelle. Comment comprendre et expliquer ce phénomène? Écoutez l'analyse de Marcel Gaucher, historien, directeur d'études à l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Il est interrogé par Manuela Afidji.
Le gouvernement a posé ce problème comme un problème de droit. De droits individuels à accorder à des gens qui ne les avaient pas, au nom de l'égalité. Évidemment que ce n'est pas qu'un problème de droit, c'est un problème qui révèle des transformations énormes de la société et en particulier d'une institution névralgique, la famille. Cette dimension-là a été escamotée par les pouvoirs publics, du coup, il y a une réaction qui est inévitable. Et puis il y a en second lieu, je crois, un problème dont le mariage homosexuel est le révélateur, qui est le sort de l'enfant dans nos sociétés. Si on a un droit à l'enfant, cela revient à faire de l'enfant la chose de ses parents. Et ça va bien au-delà des homosexuels et des couples de même sexe. C'est quelque chose qui relève du statut de l'enfant, qui est complètement contradictoire avec l'idée qu'on peut se faire d'une personne autonome. Et je crois que c'est la peur de cet asservissement des enfants qui explique les réactions les plus violentes qu'on observe autour de ce sujet en France actuellement.
Au-delà de cette question du mariage pour tous, c'est bien un malaise général, une violence sous-jacente que l'on perçoit, une violence qui entoure les débats sociaux et sociétaux. Que nous révèle cette violence sur la société française?
La société française est et demeure une société profondément politisée. C'est une société qui discute politique. Dans une société politisée comme la société française, l'énorme transformation sociale que connaissent les sociétés européennes, pour pas aller parler plus loin, provoque une sorte de demande de politique qui n'est pas satisfaite par les gouvernements en place, ni par aucune d'ailleurs des forces politiques en présence. La réflexion qui revient le plus souvent chez des gens qui ne sont pas protagonistes de ce mouvement vis-à-vis de cette loi est très typique. Ils disent au fond, le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait. Il manipule des repères extrêmement profonds de la condition humaine sans même s'en rendre compte. C'est ça qui donne cette ambiance de violence qu'il ne faut pas exagérer, hein. Je veux dire, c'est pas insurrectionnel. Mais il y a en effet un climat de violence et de ressentiment violent contre un gouvernement qui ne fait pas son travail, puisque en fait, on a l'impression qu'il ne sait pas ce qui se passe dans la société et qu'il ne se rend pas compte des énormes problèmes qu'il traite sans en mesurer l'importance. Les responsables politiques actuels ne considèrent que deux choses, l'économie et le droit. Les hommes politiques ont oublié qu'ils sont des hommes politiques qui s'occupent d'une société qui ne se réduit pas ni à l'économie ni au droit. S'ils n'en prennent pas conscience, je crois qu'on ira vers un divorce croissant des citoyens envers la scène politique avec tous les phénomènes de protestation plus ou moins intenses comme celui auquel nous sommes en train d'assister.
C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même jour, même heure, où que vous soyez.